Vous écoutez, on lit pour vous.
Grandir avec la faim. Un enjeu qui touche de plus en plus de tout-petits. Un texte de Julie Caillot, directrice de l'Observatoire des tout-petits, publié le 21 décembre 2025 dans le Journal de Québec. La faim tenaille un nombre croissant de personnes au Québec. Et de ce nombre, plusieurs sont des tout-petits. Des enfants âgés de 0 à 5 ans ont des besoins nutritionnels qui ne sont pas comblés, ce qui pourrait entraîner des répercussions importantes sur leur développement futur. Selon les plus récentes données disponibles, c'est plus d'une famille avec tout-petit sur 4, 29 % qui vivait de l'insécurité alimentaire en 2023. En comparaison avec l'année précédente, c'est une augmentation de 45 %. Cette situation est d'ailleurs plus fréquente chez les familles avec au moins un tout-petit que chez les familles sans enfants de 0 à 5 ans. C'est inquiétant, compte tenu des besoins nutritionnels des enfants en bas âge. De plus, selon le plus récent rapport sur le coût du panier à provision nutritif et économique, PPNE, à Montréal, un outil développé par Alima, centre de nutrition sociale périnatale et diffusé chaque année à l'automne, le prix des préparations commerciales pour nourrissons a bondi de 129 % à Montréal depuis octobre 2021. Cette dépense essentielle et difficilement compressible peut accentuer la précarité alimentaire chez les tout-petits et ainsi ajouter du stress dans le quotidien des parents. Face à ces constats, il est raisonnable de penser que l'insécurité alimentaire perdure dans les familles de tout-petits en 2025. Effet sur les familles de tout-petits. Cette situation est préoccupante car l'insécurité alimentaire a des répercussions importantes sur le développement et la santé physique des tout-petits et ce, tant à court qu'à long terme. Par exemple, les enfants qui vivent de l'insécurité alimentaire risquent davantage de présenter des retards de développement cognitif, moteur et neurophysiologique, entre autres. Ils seraient également plus susceptibles de développer des maladies chroniques telles que l'asthme et des allergies à l'adolescence et à l'âge adulte. Les parents en situation d'insécurité alimentaire sont bien souvent conscients qu'ils ne suivent pas les recommandations en matière d'alimentation pour leurs enfants. C'est davantage leur situation financière qu'un manque de connaissances qui les empêche de pouvoir offrir des aliments sains en quantité suffisante à leurs enfants. Certains parents doivent même se priver de nourriture afin que leurs enfants puissent manger ou sont forcés de faire sauter des repas à leurs enfants. Réduire l'insécurité alimentaire. Il est possible d'atténuer l'insécurité alimentaire par des mesures d'urgence, comme avec les banques alimentaires. Des initiatives déployées en milieu communautaire pour soutenir les femmes enceintes issues de milieux socio-économiques défavorisés ont aussi démontré des effets positifs sur la santé du bébé à naître. Par exemple, elles réduisent les taux de bébés de petit poids en plus de diminuer le risque de prématurité et de favoriser le succès de l'allaitement, des facteurs importants pour la santé des nouveau-nés. Ces mesures sont essentielles, puisqu'elles ont des effets immédiats sur le développement des tout-petits en situation de vulnérabilité. Toutefois, elles ne rejoignent pas l'ensemble des familles en situation d'insécurité alimentaire. Les études démontrent que soutenir le revenu des familles afin qu'il soit suffisant et stable est efficace pour réduire l'insécurité alimentaire de façon durable. De plus, les mesures pour faciliter l'accès à des logements abordables peuvent aussi améliorer la sécurité alimentaire des tout-petits. Au Québec et au Canada, il existe un lien étroit entre l'insécurité alimentaire et le coût du logement. Car lorsqu'on doit payer le loyer ou l'hypothèque et que le budget est serré, c'est trop souvent dans le panier d'épicerie que les familles doivent couper. L'insécurité alimentaire est une des manifestations les plus tangibles de la pauvreté. Pour l'enrayer durablement, les tout-petits ont besoin de politiques publiques préventives à l'échelle nationale. C'est ainsi que nous pourrons collectivement nourrir le développement de chaque tout-petit, peu importe la situation socio-économique de sa famille. C'était « Grandir avec la faim, un enjeu qui touche de plus en plus de tout-petits », un texte de Julie Caillot, directrice de l'Observatoire des tout-petits, publié le 21 décembre 2025 dans le Journal de Québec.
Pour en finir avec les ex, un texte de Marie-France Bazot, paru le 25 novembre 2025 dans la presse. À toute heure du jour ou en soirée, ils sont là, sur les chaînes d'infos continues ou à la radio. Grâce à eux, vous pouvez vous faire une opinion sur la loi 2, la pertinence de la piste cyclable, sur Henri Bourassa, la péremption des aliments et l'avenir de Pablo Rodriguez. Qui sont-ils? Mais les ex, voyons. D'ex-politiciens de tous les ordres de gouvernance qui ont pour bagage quelques années dans un parti politique. Leur compétence est variable, mais les champs où ils l'exercent sont infinis. Du REM au cône orange en passant par le référendum. Ils viennent habituellement par trio, mais les duos sont aussi prisés à la radio. Ils sont généralement éloquents. Leur séjour politique et les périodes des questions les ont entraînés, d'autant qu'ils n'ont pas perdu leur sens de la répartie. La période de refroidissement, naguère nécessaire pour passer de la politique active aux médias, le temps que les liens trop directs s'estompent, n'est plus qu'un souvenir. On en a vu certains parachuter directement de l'Assemblée nationale à la radio. On peut voir son nom être mentionné en commission d'enquête et aboutir dans les médias, être chef de cabinet et se recycler à la télé. Toutes les configurations sont possibles. Je ne les mets pas tous dans le même sac. Ainsi, Véronique Yvon éclaire les enjeux d'un regard frais et enrichit le débat. Elle demeure aussi exceptionnelle à la radio qu'elle l'était en politique. Donc, il y a beaucoup d'ex, et chaque élection amène sa nouvelle cohorte de transfuges médiatiques. Certains parient déjà sur Valérie Plante. Mais pourquoi une telle omniprésence? Petit détour historique. Au Québec, les ex-fondateurs sont ceux du Club des ex sur ICRDI de 2007 à 2016. À l'occasion des élections québécoises de 2007, l'animateur Simon Durivage avait réuni d'ex-politiciens des trois partis alors représentés, Marie Grégoire, Lisa Frula et Jean-Pierre Charbonneau. Le trio apportait un regard pertinent et nouveau, informé de l'intérieur. La dynamique de l'émission, faite de franche camaraderie, rappelait la bonhomie des tribunes d'ex du monde du sport. La configuration des panélistes a changé au fil des ans. Et surtout, tous les réseaux ont bien exploité le filon, attrayant et relativement peu coûteux. C'est un phénomène très québécois. En France, par exemple, le débat est beaucoup plus valorisé que la formule collégiale des ex. C'est culturel. Là-bas, on se méfie des ex-politiciens. On sollicite leur avis à la pièce, mais on leur préfère les universitaires, les journalistes et les économistes. Face à cette grande présence des ex, les questions à se poser devraient être « Que gagne le grand public ?» Les chaînes télé ? Et surtout, qu'en tire la démocratie ? L'auditoire acquiert une connaissance plus fine du monde politique, mais développe aussi une méfiance devant les stratagèmes dévoilés, ce qui ajoute une couche au cynisme ambiant. Les réseaux d'infos y voient une occasion de créer des vedettes maison appréciées du public. Le spectacle est bon. Et les ex y trouvent un tremplin, une après-carrière lucrative. Mais la démocratie se porte-t-elle mieux depuis que les ex colonisent nos ondes? Plusieurs téléspectateurs se délectent de les voir désacraliser l'instance démocratique le temps d'une émission ou abandonner leur devoir de réserve pour les fins d'une controverse. Pour certains citoyens, c'est la porte d'entrée dans un monde qui les rebute. Mais, sauf de rares exceptions, et nonobstant leurs allégeances politiques, les ex pensent presque tous de la même manière, voient les mêmes choses, partagent en gros les mêmes avis. Normal, ils sortent du même moule. Ils sont issus des mêmes milieux professionnels, sociaux même. Ils cautionnent l'ordre actuel. Ce faisant, s'entendant comme larron à foire, ils influencent notre manière de voir la politique, le monde. Ils perpétuent le système et pensent à l'intérieur de la boîte. C'est souvent du remplissage télévisuel, de l'illusion de débat, du renforcement du statu quo. La voix des ex n'est pas inutile, donc, mais notre télé et notre démocratie n'a pas, selon moi, besoin de davantage d'émissions qui les mettent en vedette. Elle a plutôt besoin de gens qui ne pensent pas à l'unisson. Sur les panels, pourquoi pas des anarchistes, des droitistes, des gauchistes, des environnementalistes? Des spécialistes en masse, ethnologues, démocrates, philosophes, scientifiques? Des adolescents, des aînés, de la pluralité de voix et de provenances pour cesser de produire du consensus, ce qui, en fin de compte, nourrit la polarisation. Si d'autres pays le font, nous en sommes capables. C'est l'effort à fournir pour nous sortir de nos discours ronronnants et de nos analyses confortables. En prévision d'une hypothétique manif, pour des médias plus en forme, ma pancarte est déjà prête. Moins d'ex et plus d'experts, d'excentriques et d'explorateurs pour mieux exulter. C'était, pour en finir avec les ex, un texte de Marie-France Bazot, paru le 25 novembre 2025 dans La Presse.
Les lieux riment avec dépression. Des voix s'élèvent pour dénoncer la vétusté de l'hôpital Douglas. Un texte de Marianne Lafleur, publié le 14 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. La pression s'intensifie sur Québec pour moderniser l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, à Montréal, où les bâtiments, dignes d'un autre siècle, compliquent les soins et minent l'efficacité du personnel. On installe des patients vulnérables dans des conditions de vie qui ne sont pas du tout propices au rétablissement, déplore le psychiatre Simon Ducharme, qui pratique à Douglas depuis 2020. Un plancher de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, photo fournie par Maxence Corriveau. L'hiver, les unités sont glaciales. L'été, elles deviennent étouffantes. Sans compter les plafonds qui fuient, les murs troués et les planchers usés jusqu'à la corde. Malgré des dénonciations répétées au fil des ans, la situation demeure inchangée et les problèmes s'accumulent. Comme plusieurs employés, M. Ducharme se désole du fait que le gouvernement tarde à agir, d'autant plus que les infrastructures de l'hôpital ont été notées parmi les pires par Santé Québec en avril dernier. Les patients eux-mêmes dénoncent à quel point les lieux riment avec dépression. Plusieurs y rentrent pour se faire aider, mais en constatant l'état des lieux, ils veulent repartir, rapporte Maxence Corriveau, président du syndicat des professionnels en soins de santé de l'ouest de l'île de Montréal. Employés à bout. En plus de l'enjeu de sécurité, la configuration des lieux pèse lourdement sur le travail du personnel. Les unités de l'hôpital sont réparties dans des bâtiments reliés uniquement par un réseau souterrain d'environ 1 kilomètre. En contexte de pénurie de personnel, chaque déplacement devient un fardeau. Le réseau souterrain de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, photo fournie par Maxence Corriveau. Quand il faut chercher un patient en crise à l'autre bout de l'hôpital, passer par des tunnels, ce n'est pas facile du tout, explique-t-il. Tunnel de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, photo fournie par Maxence Corriveau. Pour le psychiatre Simon Ducharme, qui qualifie les bâtiments d'une autre époque, les chambres partagées sont particulièrement problématiques. Il les juge inacceptables, estimant qu'elles favorisent les crises d'agitation. Maxence Corriveau souligne que la crise en santé mentale actuelle aggrave la situation. S'il y avait environ 27 patients sur son étage quand il a commencé, on en retrouve maintenant plus de 40. Pétition. Une pétition a été lancée avant Noël par la députée solidaire Alejandra Zaga Mendez afin de presser le gouvernement d'agir. Au début de l'année 2025, on a appris que près de 80 % des infrastructures sont en mauvais état ou en très mauvais état, rappelle-t-elle. Certains bâtiments remontent aux années 1890. Le gouvernement du Québec a investi 2 millions en 2020 pour amorcer l'étape préliminaire du projet, mais celui-ci n'a toujours pas avancé depuis. L'Institut universitaire en santé mentale Douglas n'a toujours pas été modernisé par Québec, malgré les pressions effectuées par les employés à bout. On doit traiter ces infrastructures-là avec la même importance qu'on le fait pour la santé physique, clame la députée de Verdun, qui déposera sa pétition au début de la prochaine session parlementaire. C'était « Les lieux riment avec dépression. Des voix s'élèvent pour dénoncer la vétusté de l'hôpital Douglas. » Un texte de Marianne Lafleur, publié le 14 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
Thank you.
un traité de paix avec la mort pour conquérir la vie. Un texte de Mélanie Noël, paru le 16 décembre 2025 dans la presse. La Québécoise Shona Burke, qui vit désormais au Royaume-Uni, retournera au Mont-Everest en 2026 si elle renouvelle l'exploit de conquérir son sommet. Elle sera la première femme au monde atteinte d'un cancer incurable à réussir cette prouesse. En mai, un an après son diagnostic, elle démontrait que le pronostic des médecins ne modérait pas sa volonté de se dépasser en courant au Népal un premier marathon en haute altitude. Shona Burke est un être humain d'exception. Et la maladie n'y change rien. Déjà, avant le diagnostic, elle était une personne remarquable. Première Québécoise et deuxième Canadienne à atteindre le sommet du Mont-Everest en 2005, post-doctorante en psychologie du sport, professeure associée à l'Université de Leeds, en Angleterre, chercheuse et conférencière reconnue internationalement pour ses travaux sur l'impact de l'exercice physique sur les patients atteints du cancer. Puis, en mars 2024, la femme, alors âgée de 48 ans, apprend qu'elle a un cancer du sein stade 2. Elle ne se décourage pas et voit cette épreuve comme un nouveau défi qu'elle relèvera. Après tout, elle a déjà gravi 4 des 7 plus hauts sommets du monde. En plus de l'Everest, Shona Burke a effectivement conquis l'Aconcagua en Argentine, l'Elbouz en Russie et à 4 reprises le Kilimandjaro en Afrique. Mais des tests médicaux plus avancés révèlent en avril 2024 que la montagne devant elle est insurmontable. Son cancer du sein a migré dans le foie. Stade 4. Incurable. Un tour du hasard qu'elle qualifie de surréaliste. J'ai passé ma vie professionnelle à étudier les effets du sport sur les personnes atteintes du cancer, principalement des femmes touchées par un cancer du sein. Puis la chercheuse que je suis est devenue l'objet de la recherche. J'ai décidé d'appliquer les connaissances et l'expérience que j'avais à ma vie, explique la femme originaire de Pointe-Claire qui a grandi entre l'île de Montréal et les cantons de l'Est, où sa famille possède toujours une résidence. Pour ses recherches, la professeure avait accompagné dans leur ascension du mont Kilimandjaro en 2009 un groupe de survivantes au cancer du sein. Elle a répété l'exercice en 2011 avec un groupe d'anciens combattants blessés. Elle pouvait ainsi noter ses observations et procéder à des entrevues pour faire avancer ses travaux. Aujourd'hui, elle collabore avec des chercheurs pour mesurer l'impact sur son système immunitaire de son entraînement, notamment dans une chambre à bateau d'oxygène. Après un tel diagnostic, la mort devient omniprésente. Mais cela vient, paradoxalement, avec une beauté incroyable. Chaque nouvelle journée est un cadeau. J'apprécie tout sans rien tenir pour acquis. Et puis, la seule façon que j'ai trouvée d'aller de l'avant a été de faire la paix avec l'idée de mourir. Quand j'ai réussi, je me suis sentie complètement libre et vivante, souligne l'ancienne étudiante de l'Université McGill et de l'Université d'Ottawa. Il y a un parallèle à tracer avec l'Everest, poursuit-elle, car quand tu te mesures à cette montagne, tu dois accepter la possibilité de mourir au cours de l'ascension. Sinon, la peur te paralyse. Alors que, si tu es en paix avec la mort, tu as la liberté de savourer chaque instant de la montée et de t'immerger entièrement dans l'expérience. Dans les mois qui ont suivi le diagnostic, Shona Burke a subi 4 mois de traitement de chimiothérapie, une double mastectomie, 2 opérations au foie, 3 semaines de radiothérapie et 1 opération pour lui enlever les ovaires. Toutes ces interventions ne l'ont pas empêché de bouger. Je courais 5 kilomètres pour me rendre à chaque perfusion de chimiothérapie, puis je rentrais en marchant. Pour la radiothérapie, je garais ma voiture à 5 kilomètres de l'hôpital et je courais jusqu'à mon rendez-vous, puis je revenais à pied. Un premier marathon. En mai 2025, un an et un mois après son diagnostic de cancer incurable, un mois après sa dernière opération au foie, Shauna Burke a couru son premier marathon à vie. Et pas n'importe lequel. Elle a choisi de s'inscrire au marathon de l'Everest qui débute au camp de base situé à 5356 mètres d'altitude et se termine 42,2 kililomètres plus loin à Namchi Bazar à 3446 mètres. Des participants étaient venus de 32 pays. La Québécoise a pris le 4e rang de sa catégorie avec un temps de 7h41 minutes. Elle prépare maintenant son retour à l'Everest, prévu le 15 avril 2026. Elle estime que l'ascension de la plus haute montagne au monde prendra entre 6 et 8 semaines selon la météo. Une équipe américaine la suit dans son aventure pour tourner un documentaire qui s'intitulera « Dying to Climb ». En 2017, Ian Toothill, un Anglais de 47 ans atteint d'un cancer en phase terminale, a réussi l'ascension de l'Everest selon la BBC. Il serait le seul grimpeur atteint du cancer à avoir accompli ce tour de force. Il s'est éteint en janvier 2018. Shauna Burke connaît les statistiques et le pronostic liés à sa maladie, mais elle souhaite continuer à vivre une vie qui lui ressemble. « J'ai choisi de monter l'Everest. Le cancer m'a choisi. » Dans les deux cas, j'ai le même pouvoir, soit celui de choisir comment je réagis, mentionne celle qui suit désormais un traitement d'hormonothérapie et doit passer un scan tous les 3 mois. Malgré mon cancer, je peux encore être résiliente, athlétique, active professionnellement. Je relève aussi le défi pour sensibiliser les gens qui reçoivent un diagnostic au fait que la réalisation de projets et de rêves est toujours possible. On peut continuer, keep showing up, et être présent. Et être la preuve que la vie ne s'arrête pas après le diagnostic. C'était Un traité de paix avec la mort pour conquérir la vie, un texte de Mélanie Noël, paru le 16 décembre 2025 dans La Presse.